Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest et la politique au Niger, le sud-est du pays. Zone proche du Nigeria, souvent en but aux attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram, a un nouveau gouverneur. Issa Lemine, un ancien ministre et ex-rebelle Toubou, originaire de la région. Les autorités nigériennes attendent beaucoup du nouveau patron de ce secteur très stratégique, Irénée Omanongbo.
Des milliers de personnes venues de toute la région ont réservé hier un accueil chaleureux à un fils du terroir. Ce n'est pas le gouverneur seul qui a, comme certains le pensent, les clés du problème. L'implication de tous est indispensable pour qu'on s'en sorte, a déclaré Issa Lemine dans une réunion avec les responsables locaux. Nommé le 26 juillet dernier, M. Lemine, ressortissant de Difa, vient remplacer Mohamed Moudour en poste depuis seulement 5 mois. Il devient ainsi le 5e gouverneur de Difa depuis les premières attaques de Boko Haram en 2015. M. Lemine a été plusieurs fois ministre entre 2000 et 2009 et député de cette région aride où vivent les Toubou, une ethnie minoritaire dont il est issu. Il est surtout connu pour avoir dirigé le Front démocratique révolutionnaire, une rébellion armée dans les années 90 qui réclamait le développement de la zone à la frontière avec le Tchad. Le FDR a cessé les hostilités après la signature d'un accord de paix avec les autorités nigériennes en 1998 à N'Djamena.
Au Nigeria voisin, comparution en justice de l'avocat et du gendre de l'opposant Atiku Abubakar, adversaire malheureux du président Muhammadu Buhari à l'élection de février dernier. Les autorités judiciaires les accusent de blanchiment d'argent. Michel Joseph.
Le gendre d'Atiku Abubakar, Abdullahi Babalele, et l'avocat de l'ancien candidat, Yuwijiwa Osaji, sont accusés d'avoir géré respectivement 140 000 dollars et 2 millions de dollars sans passer par une institution financière, d'après un procureur de la Commission des crimes économiques et financiers. Tous les deux ont plaidé non coupables hier devant le tribunal de Lagos. Les accusés ont comparu, détenus et retournent au tribunal ce jeudi, lors d'une audience où les juges vont se prononcer sur une éventuelle remise en liberté sous caution. La semaine dernière, Bola Dalé Adekoya, porte-parole de la campagne de M. Abubakar, avait accusé les enquêteurs anticorruption d'être plus dévoués à l'esprit de parti qu'à l'état de droit, les accusant d'agir au nom d'une autorité supérieure qu'ils ne citent pas. Principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar a contesté en justice la réélection de Muhammadu Buhari pour un second mandat. Depuis, plusieurs opposants ont été ciblés par l'agence anticorruption, ce qu'il qualifie de chasse aux sorcières.
Relations États-Unis-Soudan, Washington a sanctionné mercredi Salah Gosh, l'ancien chef du service de renseignement soudanais sous le régime de l'ex-président Omar al-Béchir, en raison de violations flagrantes des droits de l'homme. Une décision qui prive le responsable visé du droit d'entrée sur le territoire américain. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Le département d'État américain a placé Salah Gosh sous ce régime de sanctions à cause de son implication dans des violations flagrantes des droits humains. Sa femme et sa fille sont également interdites de séjour aux États-Unis, précise le communiqué du département d'État. Amnesty International avait par ailleurs appelé en avril les nouvelles autorités soudanaises de transition à enquêter sur le rôle de Salah Gosh à la tête des services de renseignement dans le meurtre de manifestants au cours du mouvement de protestation. Salah Gosh, qui avait repris la main sur le NISS, le puissant service de renseignement soudanais en 2018, après une première décennie à la tête du contre-espionnage jusqu'en 2009, a supervisé la répression contre le mouvement de contestation en décembre et avril. Les autorités américaines disent avoir, je cite, « des informations crédibles stipulant que Salah Gosh a été impliqué dans des actes de torture pendant sa période à la tête du NISS ». Fin de citation. Salah Gosh, à la tête du redouté NISS, avait démissionné en avril dernier, 2 jours après que l'armée a renversé le président soudanais Omar al-Béchir à la suite d'une contestation inédite. M. Gosh doit répondre aux accusations de torture, de détention arbitraire et de violation des droits humains sous sa supervision, a écrit Amnesty International, ajoutant que sa démission ne devait pas l'empêcher de rendre des comptes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Selon le groupe d'études sur le Congo et Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York, 1900 civils ont été tués ces deux dernières années dans l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Eddie Sango.
Les groupes armés ont tué 1900 civils et enlevé plus de 3300 personnes entre juin 2017 et juin 2019, notent les deux organisations qui parlent des provinces du Kivu sans préciser lesquelles. Plus de 130 groupes armés se battent dans l'est de la RDC, selon Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale des Human Rights Watch. Au cours des deux dernières années, l'épicentre de la violence est les territoires de Beni, où près d'un tiers des meurtres des civils ont eu lieu, principalement à cause des combats entre les forces de sécurité congolaises et des miliciens ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Les ADF sont accusés d'être responsables de la mort de plusieurs centaines de civils dans une série de massacres depuis 2014. Par ailleurs, les rapports notent que contrairement à une opinion répandue, il n'y a pas de corrélation systématique entre la violence et les zones minières. Seulement 20% des incidents violents se produisent dans un rayon de 20 km d'une mine.
Congo-Brazzaville, dans ce discours mercredi soir à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays le 15 août, le président congolais Denis Sassou Nguesso a promis d'exploiter le gisement d'hydrocarbures découvert dans la région de la Cuvette à la périphérie des zones humides abritant les tourbières dans le nord du pays, en respectant scrupuleusement l'environnement. Le Congo reste parfaitement attentif et conscient de la nécessité de préserver les tourbières pour leur incidence sur la protection de la biodiversité, a souligné le leader congolais. Et toujours au Congo-Brazzaville, le mythique orchestre Les Bantous de la capitale fête ce 15 août ses 60 ans d'activité. Événement qui donne lieu depuis plusieurs jours à des concerts musicaux. Reportage de notre correspondant à Brazza, Arsène Séverin.
Les chansons des Bantous de la capitale sont reconnues et fredonnées dans tous les Nganda et bistrots de Brazzaville. L'orchestre a marqué l'histoire de la musique congolaise depuis 6 décennies, comme le décrit ici Véran Carole Yanga, chroniqueur de musique.
C'est toute une richesse, tout un patrimoine national. Ce n'est pas anodin si certains comparent l'orchestre Bantou à l'orchestre Aragon de Cuba. Voilà, donc cette comparaison vraiment veut tout dire. Si on parle de chansons intemporelles, c'est justement par rapport au contenu, au thème des chansons. On peut citer comme ça là, des chansons comme Masuwa, Osalanganini, Aimé Wabolingo, c'est des chansons vraiment très thématiques, voilà, qui traversent vraiment les générations.
Comment, pendant 60 ans, les Bantous de la capitale ont marqué leur histoire et continuent de s'imposer sur le marché des disques. Eddie Gombi, expert en droit d'auteur et producteur des Bantous, explique.
Mais je pense que c'est le style musical. À l'époque, on avait un style que faisait un peu de l'autre côté, un peu grand calé, qu'on appelle le fiesta, en fait, ce mélange de rumba et de salsa. Et Bantou l'a repris. Et n'oublions pas que Essou avait une touche aussi. Très salsa, très antille. Donc du coup, il y avait un mélange. Il y avait ceux qui avaient une histoire forte Kinshasa, il y avait ceux qui avaient une histoire forte Brazzaville ou extérieure. Donc ça fait que Bantou, très vite, s'est positionné comme un groupe international par sa musique et par sa capacité à se déplacer à travers le monde. Pamelo aussi, qui était un latin de formation, donc du coup, il a apporté cette touche. En fait, ce que Pamelo avait déjà apporté aussi ailleurs à Rochero, il a ramené ça chez Bantou, Kabako, et pour moi, peut-être l'un des plus grands compositeurs congolais. Il vient de Bantou. Donc, et Jerry Gérard, grand guitariste.
Le 60e anniversaire des Bantous de la capitale se confond avec les 59 ans de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Le groupe mythique a pour cela fait le tour du Congo en livrant les concerts musicaux. Ils étaient 6 cofondateurs des Bantous en 1959. Il n'en reste plus que le doyen Edo Ganga, 86 ans, mais habile sur scène. Mélancolique et nostalgique, il se sent seul.
Même si ce côté financier est minime, mais au moins qu'on fête ça. Et c'est après cette fête que moi, Edo Ganga, qui suis le rescapé de cette, je pourrais dire oh, merci Seigneur.
Jean-Serge Essou, Pamelo Mouka, Cosmos Moutouari, Kabako Lambert ou Jerry Gérard et Nino Malapé ont été les grands noms des Bantous de la capitale dont les prouesses ont traversé les frontières congolaises. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, voaafrique.com. www.facebook.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Maven.